L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous comme chaque samedi. C'est parti pour l'atelier numérique, votre rendez-vous dédié aux nouvelles techno et à l'économie numérique du week-end sur BFM Business. Avec toute l'équipe de l'atelier qui est là, tout à l'heure on retrouvera Antoine Cyr pour son crash test. Guillaume de Groix sera aussi avec nous, on évoquera en sa compagnie les véhicules électriques, la rédaction de Zeronet.com bien évidemment avec Eric Le Bourlou. Tout à l'heure on jettera un œil sur les gros titres d'actualité que vous avez pu lire cette semaine sur Zeronet, notre French Tech Tour, le dossier d'atelier US. Tout à l'heure on évoquera les chatbots de Facebook, bientôt vous pourrez discuter via Messenger, donc la messagerie de Facebook, à des petits robots et vous pourrez leur poser plein de petites questions. Notre passion selon Saint-Net, le bureau du futur tout à l'heure avec un rendez-vous exceptionnel. Lila Megrawa a rencontré John Underkoffler, qui est le designer de l'univers de Minority Report et d'Iron Man. Rien que ça. Notre enquête de l'atelier, la ville intelligente, notre start-up de la semaine et les cyber-gadgets, bien sûr. Mais dans l'immédiat, pour commencer, c'est l'actu vue par toute l'équipe de l'atelier, avec autour de cette table Lila Megrawa, Cécile Puyardy et Constance Guyon. Bonjour, mesdemoiselles.
Bonjour.
Et du côté de San Francisco, Arnaud Auger, là aussi. Bonjour, Arnaud.
Bonjour.
Petit bonjour Arnaud, hein, franchement, dans son petit coin tranquille, il s'est dit je suis à 10 000 km, je vais faire un petit bonjour. Attention Arnaud, la semaine prochaine je serai avec vous, donc à San Francisco il faudra faire un bonjour un petit peu plus costaud. On va commencer, tiens justement, ça vous apprendra avec vous Arnaud, je ne suis pas du tout galant cette semaine, mais c'est pas grave, ça change un peu.
Pas de souci. Alors vous avez dû voir que le 4 septembre prochain, il y a une course de drones qui sera organisée sur les Champs-Elysées. Et si vous voulez vous entraîner, sachez qu'il y a une start-up américaine qui s'appelle Autonomous qui va lancer un kit de course pour les drones qui comporte les plots, les drapeaux, la plateforme sur smartphone pour défier d'autres pilotes, mais aussi la manette connectée et le casque de réalité virtuelle pour piloter le drone comme si vous étiez à bord de ce dernier.
Ah, c'est génial.
Sa caméra embarquée. Mm-hmm. Donc vous pourrez, grâce à ces start-up américaines, cher François, défier Lila, Guillaume et Antoine lors de courses effrénées dans les locaux de BFM Business pour être fin prêt pour la course du 4 septembre sur les Champs-Elysées.
Il faudra bien assurer quand même tous les salariés qui risquent de se prendre quand même un drone dans la figure. Ou alors peut-être à ce moment-là, privatiser les couloirs.
Hein ? Exactement.
Ça sera peut-être un petit peu plus, à mon avis, envisageable. Et raisonnable surtout. Merci beaucoup Arnaud. On enchaîne avec... tiens Cécile.
Alors la semaine... Oula.
Oui, mais vous aussi.
On a tous la voix un peu enrouée aujourd'hui.
Oui, que se passe ? C'est peut-être ce beau temps
qui
est là depuis...
Trop de soleil.
Voilà, trop de soleil. Tue le soleil, c'est bien connu.
Donc la semaine dernière, j'étais à l'événement The Next Up Conference à Amsterdam et j'ai notamment rencontré deux startups qui veulent rendre le temps perdu aux usagers. Est-ce que vous saviez, François, que l'on perd 3 jours par an dans les files d'attente, soit 6 mois sur toute une vie, selon un sondage Madbid ? Alors la startup bulgare TK veut simplifier la prise des transports en commun et supprimer l'attente pour acheter son billet. Concrètement, l'appli regrouperait tous les types de transports, métro, tram, même du ferry, du vélo, du Vélib, etc. sur une seule appli. Donc grâce à des capteurs e-beacons dans les véhicules et les stations, à chaque fois que le voyageur prend son métro par exemple, il reçoit simplement une notification push sur son téléphone qui lui demande est-ce que vous voulez bien prendre un titre de transport pour ce voyage. En un clic, c'est bon, c'est fait, j'ai pas besoin de rentrer ma destination, ma réduction jeune, etc. Tout est compris. Une autre start-up hollandaise cette fois, et même amsterdamoise, veut supprimer la file d'attente physique des lieux touristiques pour plutôt la rendre virtuelle en fait. Donc vous faites toujours la queue, mais pas physiquement. Avec ce dispositif, quand vous arrivez devant un musée très prisé par exemple, l'appli vous indique que vous avez 3 heures d'attente, mais au lieu de piétiner devant l'entrée, vous pouvez enregistrer votre place dans la file et partir faire autre chose pendant ces 3 heures.
Ça c'est pas mal ça.
Ce serait vachement bien.
Ah oui.
Plus d'attente à la Tour Eiffel par exemple.
Mais voilà, non, mais pendant ce temps-là, on fait autre chose.
Exactement.
Un peu comme le fast-pass de Disneyland.
C'est un peu ça, vous faites vraiment autre chose et l'appli vous rappelle quand revenir et vous tient au courant tout au long de la journée de quelle est votre place dans la file.
Bravo. Ah, vous avez terminé,
oui,
là, Cécile,
voilà,
comme
c'est
ça.
Oui,
hein, parce qu'il faut quand même que je vous mime Cécile. Elle termine sa petite news, hop, elle s'installe dans son siège, elle s'éloigne, comme ça.
C'était pour vous, c'est terminé. Que j'avais fini.
Ah oui, voilà, c'est ça. Mais bon, c'est vrai qu'à la radio, c'est un peu compliqué parce qu'on vous voit pas. Hein. Merci Cécile, et place donc à Lila pour une petite news. Bonjour Lila.
Bonjour François. Alors vous savez que la semaine dernière, Microsoft a annoncé bannir les mots de passe trop faciles, type 1, 2, 3, 4, 5 ou QWERTY. Donc je vais tout simplement vous parler des projets de Google pour changer un peu nos manières de concevoir nos mots de passe. En fait, ça va plus que ça, c'est à mort le mot de passe, vive le score, ce qu'ils vont appeler le score de confiance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour vous identifier, Google va vous demander différents types d'identification, d'identifiants possibles. À savoir qu'ils vont être capables de repérer selon le Wi-Fi que vous allez utiliser, selon le lieu, selon vos habitudes également, selon également certains éléments biométriques.
En fait, c'est plusieurs petites briques, pardon, d'identifiants.
D'identifiants qui vont en fait établir une espèce de score de confiance, à savoir que si vous souhaitez avoir accès un jeu sur votre mobile, on va peut-être vous demander simplement votre localisation. Mm-hmm. Et si en revanche vous avez besoin d'accéder à votre appli bancaire, là on va avoir tout le pack, donc mm-hmm. à savoir l'identification, reconnaissance faciale, la rapidité de votre rapidité à taper sur le clavier, différentes identifications et identifiants d'ordre comportemental.
C'est pas mal,
donc
ça.
Ça, Google mise assez clairement là-dessus. En revanche, certains utilisateurs s'inquiètent notamment de des blessures qu'on peut se faire à la main, par exemple, ou au pouce. Est-ce que ça veut dire...
Oui, parce qu'on n'écrivait plus de la même manière, en fait.
Exactement.
Si on vous retrouvez... qu'on tape plus vite que d'habitude.
Tout à fait.
Oui, c'est ça.
Tout à fait.
Mais vous savez que moi, il y a un copain, il s'est blessé le pouce. C'était son pouce qui lui permettait d'identifier sur son téléphone. Et donc, pendant un certain temps, ça marchait plus. Donc, ça l'a perturbé. Donc, là aussi, on se rend compte qu'il y a certains types de biométrie qui peuvent... être comme ça, fragile en quelque sorte.
Et alors on va devoir se poser la question très très rapidement, puisque les kits destinés aux développeurs devraient être disponibles d'ici fin 2016. Donc ça, ce type d'identification devrait arriver très rapidement sur les systèmes d'exploitation Google.
Donc Android.
Tout à fait.
Voilà. Merci Lila. On enchaîne avec Constance. Constance, on va parler de Samsung qui va s'essayer donc, je crois, à la location de téléphone.
C'est ça. Ils ont décidé de prendre un pari en fait un petit peu fou, donc de proposer leur téléphone haut de gamme à la location directement en ligne. Alors ça va se faire sur une plateforme qui s'appelle Up to You, et donc ça concerne tous les téléphones de la gamme Galaxy S7. Alors on va dire comment fonctionne le système. Alors l'utilisateur va signer un contrat de location de 2 ans sur le site qui va lui permettre ensuite de louer différents modèles de téléphone. Et après signature, il va recevoir le téléphone dans les 24 heures suivantes à son domicile. Alors ce qui se passe, c'est que tous les 4 mois, il va pouvoir changer de modèle de téléphone s'il le souhaite. Alors c'est un service qui est disponible qu'en France, qui vaut la somme de 27 euros par mois, et avec des téléphones qui sont toujours neufs. Donc ça permet vraiment aux gens d'avoir le dernier modèle de téléphone.
Oui, si on est fan de Samsung, ça peut être intéressant. Non, mais c'est vrai.
C'est ça. Et en fait, ensuite, les téléphones vont connaître une seconde vie en tant que téléphone d'occasion. Et le directeur marketing de Samsung, en fait, explique qu'il s'inspire des modèles de Uber et de Blablacar, qui montrent que les gens, en fait, maintenant, ont vraiment besoin d'un service plutôt que de la propriété d'un objet. Et comme il y a certains consommateurs qui sont très versatiles, qui aiment bien maintenant changer, notamment en France, il paraît que c'est une caractéristique des Français. Et voilà, il a décidé de suivre le mouvement aussi pour ses téléphones.
Apple est en train de se lancer, il me semble, là-dessus, notamment pour ses iPhones. Vous allez avoir la possibilité déjà, d'ores et déjà, de remplacer par exemple votre iPhone 5. Vous allez le confier à l'Apple Store, et en échange, on vous remet un iPhone 6S, par exemple, 6, et pareil, vous remboursez en fait sur le mode d'un abonnement d'une trentaine d'euros, il me semble.
Mais la différence avec Apple, c'est qu'au bout d'un certain temps, le téléphone vous appartient ou vous avez la possibilité de le racheter.
C'est vrai.
Que Samsung, c'est que de la location, vraiment. C'est-à-dire que si vous donnez 30 euros par mois pendant 2 ans, vous pouvez pas rajouter pour acheter le téléphone. Vous l'avez loué, c'est tout. Intéressant, on va voir si ça fonctionne, et c'est d'autant plus intéressant que Samsung lance cette offre en France exclusivement pour l'instant, pour voir ce que ça donne. Cécile.
Alors, je vais continuer de vous parler de The Next Up Conference, où les échanges étaient vraiment autour de l'intelligence artificielle. Je vais vous soulever quelques points sur ce qui s'est dit pendant ces conférences.
Avec vos petits bras, vous allez les soulever.
Exactement. Donc, pour créer les produits de demain, les speakers ont vraiment insisté sur la simplicité des dispositifs. Ils doivent être transparents, sans couture. Et comme par exemple la porte d'un supermarché qui s'ouvre toute seule quand le client arrive avec les bras pleins de courses, et bien c'est exactement ce genre de technologie qu'il faut continuer d'avoir. Le contre-exemple, Constance en parlera dans le gadgeto, c'est le GPS qui n'est pas du tout naturel puisque vous avez votre nez collé sur votre téléphone. téléphone. Les prochains grands applicatifs, selon IBM, seront aussi la transmission des sens virtuellement. Par exemple, reproduire le toucher, la voix ou l'odeur de quelqu'un. Mais également, avoir de vraies conversations avec une machine qui peut, dès aujourd'hui, IBM l'a montré en fait avec une vidéo, se créer un avis et une argumentation sur un sujet en analysant tous les pour et les contre sur Internet, par exemple, sur cette base-là. Car les machines intelligentes pourraient devenir réellement des compagnons, selon la Singularity University. On s'attachera à eux comme à nos animaux de compagnie ou nos Tamagotchi. Je ne sais pas si vous les avez connus, François, ou peut-être vos enfants, ces petits animaux robots en fait qu'on avait. Enfin, le deep learning ressemblera de plus en plus au cerveau humain et il permettra aux robots de nous éduquer. Si j'apprends le chinois à un robot, il pourra l'apprendre à d'autres robots qui à leur tour l'apprendront à d'autres humains. Et la dernière tendance soulignée par Amazon cette fois était la prédictabilité, qui est essentielle dans les futurs produits car très demandée par les consommateurs. Pourquoi ? Car selon Amazon, moins on a le choix, plus on est heureux. Parce que quand on a trop de choix, on se dit, mince, qu'est-ce que je dois prendre ?
Et on est un peu perdu.
Ça, exactement.
Voilà, c'est ça. Le dilemme. Merci beaucoup, Cécile. Et tout de suite, on enchaîne avec le Vue d'Asie de Jean de Chambure.
L'atelier numérique sur BFM Business.
Bonjour Jean.
Bonjour François.
Alors Jean de Chambure, on le sait, en Chine, les enfants sont rois, mais encore plus sur Internet.
Effectivement François, c'est vrai que voilà cette fameuse politique de l'enfant unique qui d'ailleurs a pris fin, comme vous le savez, à la fin de l'année dernière, parce que maintenant les Chinois sont autorisés à avoir deux enfants. Ça va pas d'ailleurs, c'est pas une loi qui va faire en sorte que tout change d'un coup, mais enfin bon, c'est quand même une ouverture significative. Eh bien, ça se traduit aussi sur le web, sur les achats en fait, que les Chinois font. Vous savez qu'ils sont déjà d'excellents négociants, hein. C'est une partie du succès d'Alibaba qui intègre dans ses sites des fonctions de chat pour pouvoir négocier en direct avec le vendeur. Mais alors, dès qu'il s'agit de leurs enfants, les Chinois sont fort généreux. Et il y a aussi une étude qui est sortie qui montre qu'en fait, que l'année dernière, ils ont dépensé pour leurs enfants. Alors, c'est des chiffres qui peuvent vous paraître un peu plus réduits parce qu'on n'est pas encore au même pouvoir d'achat, évidemment, que ce qu'on peut connaître, nous, en Europe. Mais enfin, c'est relativement important. C'est 80 RMB pour chaque achat dédié à consacrer à leur enfant, c'est-à-dire plus de 12 euros. C'est 136 RMB pour Shanghai, donc qui est une ville, évidemment, qui est un pouvoir d'achat qui est plus élevé que d'autres villes de Chine. Alors, ils achètent un peu tout, des habits, des jouets, des poussettes, des nourritures pour enfants. Ce qui est intéressant, en fait, cette semaine, par rapport à cette tendance, c'est que Didi Kuaidi, vous savez, le concurrent d'Uber, hein, qui fait des trajets avec des taxis et des chauffeurs privés, s'est saisi, en fait, de cette opportunité pour lancer un service dédié aux enfants. Dédié aux enfants de 4 à 16 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour la plupart de ces enfants, en fait, ils ont les deux parents qui travaillent et qui sont donc évidemment fort occupés. C'est souvent d'ailleurs les grands-parents qui s'occupent des enfants en Chine. Et bien, en fait, ils ont lancé des voitures de luxe qui viennent les chercher à l'école, ou des voitures de luxe, ou des voitures, disons, de bonne qualité, avec des sièges de sécurité à l'arrière, des chauffeurs, etc.
Tout ce qu'il faut.
Déformés au secours, etc. Exactement. Donc, ils ont leurs propres chauffeurs qui viennent les chercher à l'école. Ça va être lancé, c'est lancé cette semaine, plus exactement à Pékin. C'est un besoin très important, donc, parce que les deux parents travaillent, et aussi parce que les trajets des bus sont en fait décidés par le gouvernement chinois, les bus scolaires qui ramènent les enfants. Et du coup, parfois, les enfants restent dans des bus pendant des durées assez élevées, donc ce qui évidemment les fatigue davantage. Donc c'est une assez jolie innovation de la part de Didi, qui est en fait notre cher concurrent en Chine de Uber. Et d'autres petites news sur laquelle je voulais vous parler, puisqu'on parle d'enfants et de famille, c'est aussi les fleurs qu'on offre soit à ses amoureux, soit à sa famille. Et bien là aussi, ça marche très fort en Chine. Ça, c'est un autre phénomène de société qu'on peut voir grâce à Internet. En fait, lorsque vous promenez dans les villes chinoises comme Shanghai ou autres, vous voyez assez peu de fleuristes. Donc le modèle online que nous on connaît bien en France, c'est développé là depuis quelques temps en Chine, complètement intégré en général sur WeChat, hein, depuis l'interface qui vous permet de choisir le bouquet jusqu'au paiement. Et il y a ainsi une startup qui s'appelle Flower Plus qui vient de lever 70 millions de RMB en série A. Donc c'est une petite levée de fonds par rapport à d'autres. Mais voilà, c'est significatif. Vive les fleurs, vive les enfants. On voit que tout ça marche bien sur notre cher Internet chinois.
Très bien, bravo Jean. Et est-ce que vous progressez? Votre chinois devient bon ou il y a encore un peu de travail?
Ah là là, vous savez, c'est le chinois, c'est comme une lumière qu'on allume dans l'obscurité. C'est-à-dire, plus on progresse, et je progresse fort lentement, on s'aperçoit du noir qui nous entoure. Et c'est passionnant.
Ah, que c'est bien dit, Jean. Bravo. C'était le Vue d'Asie de Jean de Chambure depuis Shanghai. Merci Jean, la semaine prochaine. Et on se retrouve dans un instant pour la suite de l'atelier Silicon Carnet. On ira à San Francisco avec Arnaud Auger et le Cyber Gadget cette semaine avec Constance et Cécile. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Dans un instant, les sélections de gadgets de Constance et de Cécile. Et croyez-moi, c'est pas pour leur mettre la pression, mais ça va être du lourd, du très très lourd. Mais auparavant, direction San Francisco avec Arnaud Auger pour le Silicon Carnet. Bonjour Arnaud.
Bonjour François.
Alors Arnaud, vous avez décidé aujourd'hui de nous parler de bras robotiques. Vous n'avez pas trouvé plus sexy comme sujet que les bras robotiques, Arnaud, entre nous?
Eh bien, détrompez-vous, François, je vais vous parler d'un bras robotique qui est très sexy au contraire, qui répond au nom de Cassia, qui est l'anagramme de Kick-Ass Trainable Intelligent Arm, qui signifie un bras intelligent qui déchire. Donc vous voyez, on est déjà très loin de l'univers aseptisé des bras robotiques industriels.
C'est vrai.
Et en plus, dans ce domaine très masculin qu'est la robotique, Cassia a été créée par une fondatrice, Rosanna Myers, que j'ai rencontrée à San Francisco.
Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce bras robotique Cassia, Arnaud?
Eh ben, contrairement aux bras robotiques industriels qui coûtent au minimum 20 000 $ et plus souvent même au-delà de 100 000 $, Cassia ne coûte que 2 000 $, soit plus de 10 fois moins cher. Donc en bref, vous pouvez avoir un bras robotique pour le prix d'un ordinateur portable. Et c'est un point très important parce que selon une étude du Stanford Research Institute, le centre d'études de Stanford, l'étude prédisait que les bras robotiques se démocratiseront dès qu'ils passeront en dessous de 5 000 $. Eh bien, avec Cassia, on y est. On peut donc imaginer que tout à chacun puisse s'offrir un bras robotique.
Alors c'est très bien un bras robotique, mais à quoi cela peut servir au quotidien ?
Eh bien, il faut bien comprendre qu'un bras robotique peut faire aujourd'hui tout ce qu'un bras humain peut faire, mais en mieux et en plus rapide. Et oui, un bras robotique ne s'ennuie pas et ne se fatigue jamais. Donc au-delà de vous préparer des cocktails en série, cher François,
ah, ça, c'est bien.
On peut imaginer que les chercheurs diplômés qui aujourd'hui passent des heures en laboratoire à faire du pipetage manuel pourront laisser leur robot remplir les pipettes à leur place. On peut aussi imaginer des commerçants qui doivent remplir des cartons ou apposer leurs tampons, laisser faire les bras robotiques. Donc, en plus, vous savez quoi, Cassia est très douée en calligraphie. Donc, elle peut écrire avec un stylo des milliers de lettres, comme si vous écriviez à la main. Donc, on peut imaginer des geeks romantiques écrire à toutes leurs promises des lettres qui, en fait, ont été écrites par un robot.
Eh bien, dites-moi. Alors, c'est très bien, mais du coup, chaque tâche doit être quand même compliquée à programmer, non ?
Eh bien non, le génie de Cassia est là aussi. En effet, il suffit de bouger vous-même le bras robotique pour lui apprendre un mouvement. Sinon, vous pouvez aussi faire un dessin sur l'application tablette. Par exemple, vous pouvez dessiner un cœur sur votre tablette et le bras robotique pourra reproduire ce dessin à l'infini. De plus, Cassandra, la créatrice de Cassia, a annoncé une plateforme de mouvement que les développeurs pourront donc créer et que vous pourrez télécharger. Donc je pourrais très bien imaginer de capter les gestes de ma grand-mère quand elle fait un clafoutis et vous pourrez les télécharger pour que Cassia vous cuisine le même clafoutis.
Et on aurait donc le même clafoutis que mamie Arnaud.
Exactement.
En gros, c'est ça. C'est génial. Donc c'est l'ère des robots qui s'ouvrent. Ne vont-ils pas tous nous mettre quand même au chômage ? C'est un peu la crainte qu'on peut avoir.
Eh bien, Cassandra, donc la créatrice de Cassia, explique qu'au contraire, les robots vont simplement permettre aux humains de se concentrer sur les vraies tâches à valeur ajoutée. Donc les chercheurs, quand ils vont plus passer leur temps à faire du pipetage manuel, pourront mieux se concentrer à analyser leurs tests et à trouver les solutions. Bref, autant de temps de cerveau disponible pour soigner le cancer.
Eh bien, dites-moi, bravo. Merci beaucoup Arnaud. Et on enchaîne avec donc la collection de gadgets de Constance et de Cécile. Et c'est Constance qui commence aujourd'hui.
Oui François, alors est-ce que vous avez déjà essayé de visiter une ville inconnue avec un plan à la main ou votre téléphone en essayant de zigzaguer entre les obstacles et de rentrer en collision avec personne ?
Oui, ça c'est compliqué.
Bien souvent.
Et est-ce que vous avez réussi à profiter de la visite de la ville dans ces conditions ?
Non, parce qu'on regarde tout le temps smartphone en fait.
Exactement. Et alors oui. Du coup, EasyJet a une solution pour vous. L'entreprise propose des sneakers connectés qui sont équipés de petites puces électroniques et du Bluetooth, avec des vibreurs qui ressemblent à ceux que vous avez dans les téléphones portables quand voilà, il est en mode vibreur, et qui vous permettent de vous déplacer. Alors c'est relié à une application, vous mettez tout simplement, par exemple, je veux aller à tel point de la ville à découvrir, et ensuite vos chaussures vont vibrer à l'intérieur de la semelle pour vous indiquer si vous tournez à droite, à gauche, faire demi-tour, ou si vous êtes arrivé.
C'est super ça.
Comme ça, vous n'avez pas du tout à sortir votre téléphone. Alors pour le moment, les chaussures sont au stade de prototype, Et donc 3 heures d'autonomie, bon, ça permet déjà de faire une jolie balade.
Ouais.
Et il n'y a pas encore de prix qui a été communiqué, donc affaire à suivre. Et dans la même lignée, si vous voulez faire un tour à bicyclette dans la ville que vous visitez, il y a Google et Levi's qui ont passé un partenariat pour produire une veste connectée qui s'appelle Jacquard et qui permet en fait de rentrer en contact avec son téléphone en touchant la manche de sa veste.
Tiens.
Par exemple, si vous voulez changer de morceau, vous tapotez 2 coups sur le poignet et hop, ça passe au morceau suivant. Ou si vous avez, je sais pas, un appel de Cécile et vous avez pas vraiment envie de la prendre en ce moment, hop, un coup sur le poignet droit et hop, vous lui raccrochez au nez.
Sans avoir
à sortir votre téléphone, voilà. Donc ça permet de limiter.
C'est du vécu, ça, Constance, j'ai l'impression.
Ouais, j'en peux plus.
Mais oui.
Donc voilà, ça permet de limiter les risques d'accident, aussi de faire tomber le mobile quand on est sur son téléphone. Et la veste, elle sera disponible à partir du printemps 2017. Aussi, un avantage, c'est qu'elle peut passer à la machine à laver, parce que ce serait embêtant. Voilà, après je sais pas, un petit passage dans les rues boueuses actuellement de pouvoir la porter.
Très bien. Je crois qu'il y a EasyJet qui est en train de tester ce genre de basket comme ça connecté.
Je pense que c'est EasyJet.
Voilà, c'est ça.
Vous avez bien écouté, François. Merci.
Ouais, merci.
Tout à fait. J'ai honte. Cécile.
Eh bien, on reste sur le thème du voyage parce que je vous propose de.
Ça serait pas mal que vous parliez du voyage, justement. Bon, allez-y.
Donc, si vous deveniez polyglotte, François, du jour au lendemain, comme ça,
oui, d'un coup.
Plus besoin de sous-titres pour comprendre votre amour colombien de vacances. Des oreillettes traduisant toutes les langues en temps réel seront disponibles en 2017. Donc, les oreillettes s'appellent Pilote et elles ont été créées par la start-up new-yorkaise Waverly Labs, qui vient de lancer le financement participatif du produit sur Indiegogo. Comment ça fonctionne? Les deux interlocuteurs qui sont dans une conversation portent chacun une oreillette qui est reliée en Bluetooth à une application sur leur smartphone. Leur smartphone.
C'est compliqué, hein? Mais c'est un mot qu'on n'utilise pas souvent aussi.
Oui, c'est ça.
C'est
exactement.
Pour ça.
Il est désuet. Et donc, l'application smartphone, c'est elle qui va traduire tout simplement la conversation grâce à un algorithme ultra puissant qui va traduire en temps réel, un peu comme Google Traduction, en fait, tout simplement. La paire d'oreillettes est aujourd'hui annoncée au prix de 250 € et fonctionne pour le moment avec 4 langues qui sont l'anglais, le français, l'espagnol et l'italien. Mais d'ici à 2 ans, d'autres langues seront ajoutées comme l'hindi, l'arabe ou les langues africaines et asiatiques. Alors cependant, les créateurs de Pilote avancent très prudemment que la traduction ne sera pas fiable à 100%, mais un peu comme Google Translate, hein, qui n'est jamais vraiment tout à fait exact. Microsoft avait aussi lancé une technologie similaire sur Skype Translator qui avait montré des limites. Mais il faut savoir que les spécialistes du domaine de la traduction online sont en train d'affirmer que d'ici 5 ans, on pourrait vraiment avoir une technologie infaillible. Ou presque.
Ou presque. En tout cas, à partir du moment où ça marche à 99%.
C'est déjà pas mal.
Voilà. Hein. Exactement. Non, mais au moins qu'on vous comprenne. Par exemple, si vous commandez, du riz cantonais qui ne vous arrive pas à une vache. Ou un truc.
Par exemple. Peut-être pas pour
J'exagère.
Mais... Peut-être pas pour du jargon vraiment très technique, mais de la conversation de base. En tout cas, c'est possible d'être plus ou moins proche de la réalité quand même.
On est d'accord. Merci Cécile et merci à Constance aussi. On revient dans un instant pour la suite de cet atelier numérique sur BFM Business. Start-up de la semaine et notre enquête de l'atelier à suivre. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Dans un instant, notre enquête de l'atelier, on va parler de la ville intelligente qui, visiblement, n'existe pas. En tout cas, vue par nos invités et Aurore Géraud, qui est d'ores et déjà avec nous. D'ailleurs, Aurore, on va retrouver notre start-up de la semaine. Elle s'appelle Canda et elle rend le SAV plus sympa. Ça, c'était pour la rime avec Canda.
Le SAV, si on part sur le côté business,
on
va aller un petit peu d'abord plus global. Et avec nous pour en parler, Martin Verpalen, qui est donc fondateur de Canda, cofondateur.
Bonjour.
Alors, c'est
Bonjour.
Quoi Canda?
Canda, c'est la première application de création de vidéo, de interview vidéo. Donc, avec Canda, on pose la question elle est écrite, ce qui la rend extrêmement facile à partager, à envoyer dans un mail, dans un tweet, ou dans une notification push.
Mais vous pouvez nous donner un exemple pour qu'on comprenne bien?
Je vous envoie une question courte sur cette émission, sur
l'atelier numérique.
Voilà.
D'accord, c'est bien, ça peut
voilà. Et vous recevez la question, vous l'ouvrez avec l'application et vous me répondez avec une vidéo. Une courte vidéo, maximum 30 secondes. Et ce qu'on fait ensuite, c'est on prend la question qui devient le titre de la vidéo et on prend la vidéo elle-même pour générer un petit player vidéo qu'on peut partager partout sur internet. On peut la mettre sur son site, sur son blog, dans un article et évidemment aussi sur les réseaux sociaux.
Donc du coup c'est une application, ça s'apparente à quoi visuellement? Est-ce que c'est un forum?
Non, 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 c'est vraiment une application comme Periscope, comme Instagram. Mm-hmm. Oui, c'est ça.
Est-ce que ça aussi un peu l'image d'un réseau social? Est-ce que on suit des par exemple des personnalités à qui on peut poser des questions?
Oui, il y a toute une mécanique sociale. Chaque utilisateur a son propre profil dans lequel on retrouve mm-hmm. les vidéos qu'il a créées, les réponses qu'il a données. On a une mécanique sociale aussi de, par exemple, s'il y a une question s'il y a une question qui a été posée et moi aussi je veux avoir la réponse, mais je peux dire moi aussi je veux avoir la réponse. Et du coup, la personne sait qu'il y a déjà 2, 3, 4 personnes qui ont envie d'avoir la réponse et qui va l'encourager à répondre.
Et donc, il y a un moteur de recherche à l'intérieur pour savoir est-ce que c'est classé par thématique, est-ce que c'est juste individuel?
Aujourd'hui, on peut chercher par question, donc on fait aussi. Donc pour une marque, quand on pose une question, on peut faire remonter des questions similaires. Et l'idée, c'est d'ajouter des thématiques et ce genre de choses aussi. Ouais.
Et est-ce qu'on peut s'imaginer que ça puisse être utilisé, donc ce qu'on disait sur le SAV en business?
Oui, en business, les usages, c'est exactement ça. C'est aujourd'hui, les foires aux questions et tout ça,
c'est courant,
mais c'est très, enfin, sur les sites, c'est pas très sexy, c'est pas très visité. Il y a plein de questions partout et tout ça, ouais. Donc, avec Canda, on peut directement poser une question à une marque et la marque peut répondre en moins de 30 secondes. Donc, pour les marques, c'est en effet une très bonne outil. Mais aussi, par exemple, pour les politiques, de répondre directement à des questions des citoyens. Ou justement leur poser des questions de comment ils voient le pays, de l'avenir du pays, pour les célébrités, pour les médias aussi, pour faire durer après ou avant une émission, de permettre aux gens de poser des questions à les invités, par exemple.
Pour une émission radio, par exemple.
Exactement. Donc il y a plusieurs usages, même éducatifs, on a vraiment voulu rendre, selon nous, enfin, on pense que l'interview, c'est le format le média le plus utilisé dans les anciens médias, évidemment à la radio, télé, presse. Et nous, on veut la rendre disponible à tout le monde, qu'on peut poser des questions à n'importe qui et que n'importe qui peut répondre et générer, créer des contenus comme ça ensemble.
Et dans le cas d'un SAV ou quelque chose de business, c'est aussi peut-être remettre l'humain au centre.
Exactement, c'était un des retours qu'on a eu, c'est d'avoir quelqu'un de vrai en face de soi, quelqu'un de par exemple, on peut imaginer avec une chaîne de avec un opérateur de téléphone, on peut imaginer que leur équipe répond directement à des questions, ceux qui sont dans les boutiques répondent aussi à des questions directement sur les produits, sur les problèmes techniques.
D'accord. Bah, merci beaucoup. Donc c'était la start-up de la semaine, Canda.
Parfait. Et vous avez un bel accent qui vient d'où?
Moi, je suis hollandais, oui.
Ouais. Bravo, parce que vous parlez super bien français. Alors, j'imagine que vous parlez très bien hollandais, mais alors très bien français aussi. Bien joué. Et après notre start-up de la semaine, on enchaîne avec notre enquête de l'atelier Aurore Géraud et on va parler de ville intelligente.
L'atelier numérique sur BFM Business.
À l'occasion des Grands Prix Smart Cities organisés par Le Monde en partenariat avec l'atelier BNP Paribas qui ont eu lieu le 20 mai dernier, j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Francis Pisani, qui est journaliste et conférencier qu'on a reçu beaucoup à l'atelier numérique, mais également Louis Tressard, CEO de l'atelier BNP Paribas. Messieurs, bonjour. Et on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Une Smart City, on en parle beaucoup. On a des définitions très théoriques, mais une Smart City, c'est quoi?
Au risque de te décevoir, je crois qu'il n'y a pas de Smart City et il n'y aura jamais de Smart City. Plus exactement, je pars d'une notion développée par Jean-Louis Missika, le responsable de ce domaine à la municipalité de Paris, et qui dit « Ville intelligente, c'est un pléonasme, on n'a jamais rien fait d'aussi intelligent que la ville. » Donc on la rend intelligente, elle est intelligente, on n'avance pas beaucoup. De même que je pense qu'il n'y a pas cette... Ça ne veut rien dire de parler de ville durable, on n'a rien fait de plus durable qu'une ville. Donc parler de il n'y a pas de ville intelligente, mais nous vivons dans des villes qui ont besoin d'être améliorées et avoir recours à l'intelligence, c'est une bonne chose. Le problème, c'est pas d'utiliser une seule intelligence, comme on a tendance à le dire, quand on axe tout autour des technologies de l'information, c'est d'utiliser toutes les intelligences possibles pour rendre les villes meilleures. Deuxième problématique avec la notion de ville, c'est que moi j'ai envie de dire, j'ai déjà dit d'ailleurs, la ville ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on est dans des espaces urbains, et quand on parle de ville, il y a une tendance à assimiler ville avec municipalité. Quand on parle de Paris, on parle de quoi? On parle de ce qui est à l'intérieur du boulevard périphérique, ou on parle de l'ensemble, ou on parle... Bon. Donc il y a les structures juridiques qui définissent la ville sont toujours, dès qu'elles apparaissent, en retard. Et particulièrement en retard quand il s'agit d'une métropole comme Paris. Donc, et les gens, ce qui est très important, les gens vivent et travaillent dans plusieurs villes. Et on utilise leur intelligence éventuellement ou leur participation démocratique que dans un des endroits où ils vivent. Donc il faut arrêter de parler de ville, mot fort utile et dont on ne se passera pas, et il faut essayer de comprendre comment nous améliorons et comment nous rendons plus vivables, comment on fait pour améliorer nos conditions de vie dans ces espaces urbains.
Alors, la ville n'existe pas, par contre on a besoin de mobilité, on a besoin d'espaces publics intelligents. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui manque actuellement pour que tout cela fonctionne et que le bien-être du citoyen soit assuré?
Dans les problèmes très concrets qu'on peut rejoindre, c'est l'utilisation des données qui peuvent être, d'une part, une atteinte à leur vie privée. L'Europe fait beaucoup d'efforts pour essayer de mieux comprendre ce qu'on peut faire, mais il y a quand même un vrai problème, c'est que tout ce qu'on fait qui utilise le digital laisse une trace. Et donc, on ne peut pas ignorer qu'on laisse une trace, on ne peut pas ignorer que nous acceptons de laisser des traces en échange de certains services, et il faut voir comment on gère ça, comment on l'organise. Et puis il y a les questions de sécurité qui sont très importantes et des vrais problèmes pour la ville. En gros, pour avoir plus d'informations sur la ville, on a des capteurs humains ou qui sont transportés par les humains, c'est nous avec nos téléphones mobiles, et ça je viens d'en parler, c'est un échange, on donne notre position en échange de quoi on sait où on peut aller. Et puis il y a des capteurs qui sont des capteurs fixes qui sont installés, et ces capteurs fixes en général ne sont pas bien protégés. Pourquoi? Ben parce que premièrement c'est facile d'ignorer le problème du côté des municipalités. Deuxièmement, parce que ça coûte de l'argent. Donc, assurer une bonne sécurité d'un capteur et des informations qu'il recueille, ça coûte c'est une dose supplémentaire, c'est une tranche du budget supplémentaire à ajouter. Et donc, il est facile de s'en passer. Or, c'est extrêmement dangereux. La cybersécurité, plus on dépend de la technologie de l'information, plus on s'expose. Ceci dit, il ne faut pas oublier non plus que, en augmentant la question de la sécurité, ce qui est un bon objectif, on a tendance à limiter la mobilité. Donc, il faut arrêter de promettre qu'on va avoir de la sécurité, de la mobilité, du plaisir, de la vie privée, etc. Et c'est pour ça, moi je pense qu'aucun d'entre nous n'a une réponse, mais il faut en discuter tout le temps, il faut en débattre. Pour ça, il faut que, à la fois, les individus se penchent sur la question, ça va déterminer leur vie beaucoup plus que plein de sujets dont on parle d'habitude dans les préaux d'école au moment des campagnes électorales. Les individus, les groupes doivent se pencher sur cette question, et il faut obliger les politiques à se pencher là-dessus. La méconnaissance du sujet des technologies et de ce qu'on peut en faire et des dangers qu'elles représentent par les élites, il y a un bouquin de Laure Bello du Monde là-dessus, est quelque chose d'extrêmement préoccupant. Et j'oserais dire qu'au niveau des entreprises, parce qu'on a souvent tendance à dire c'est les politiques, mais heureusement qu'on a des entreprises, au niveau des entreprises, on a encore trop de gens qui ne comprennent pas les enjeux, le changement de civilisation qui est en cours, avec cette question fondamentale au niveau de la ville et au niveau de l'entreprise, qui est la reconfiguration des jeux de pouvoir, d'influence et d'action.
Pour moi, la performance pour le citoyen de la Smart City, de la ville intelligente, de la ville connectée, il sera obtenu en faisant converger, je dirais, deux chantiers. L'un qui est macro, avec le développement justement des infrastructures, des divers services interopérables, permettant de régler les gros problèmes d'énergie, d'habitat, de transport, sans oublier toutes les interactions bien évidemment obligatoires entre ces services via cette fameuse data, cette fameuse information de valeur. Et puis l'autre chantier qui est le quartier, donc à une échelle beaucoup plus humaine, qui est à mes yeux le plus important, car un chantier de proximité avec donc le citoyen pour connaître à la fois ses usages et répondre précisément à ses besoins. Donc ce chantier doit permettre le développement et une adhésion collective avec toute l'énergie qui permettent donc de développer les bonnes réponses et de faire comprendre, entre autres, donc il y a un acte pédagogique par la preuve qui est de faire comprendre quelle est la valeur de cette fameuse data dont on entend parler qui va donc, encore une fois, permettre de développer les services, quelles que soient les typologies, bien évidemment, que ce soit l'artisan, les commerçants, le citoyen d'un point de vue global. Donc la convergence de ces deux chantiers va générer ce que j'appelle une chaîne de valeur sans rupture, puisque par exemple si on prend le sujet de nos entreprises qui permettrait par exemple d'étaler les horaires de bureau et éviter ces fameux grands flux le matin et le soir à 9h et 18h, parce que je rappelle quand même que tant qu'on n'a pas résolu ce sujet, aucune solution, qu'elle soit énergétique ou solution de mobilité, ne permettra de résoudre cette problématique de population, de pollution, de bouchons, voire sécuritaire. Donc à l'échelle du quartier, justement, cette connaissance des horaires, des flux de ses habitants locaux, via cette fameuse data partagée, permettra à l'écosystème local, donc les crèches, les commerces, la mairie, les solutions de transport, de gérer, de s'adapter avec ses propres horaires et surtout les ressources en adéquation aux besoins. Et donc c'est toute cette connaissance de ces multiples éco-quartiers, de ces multiples quartiers dont la data permettra, encore une fois, la connaissance des usages via la data permettra de répondre à une attente, à une performance, et permettra donc de façon globale à générer cette fameuse ville connectée et surtout intelligente par les actions des citoyens et pour les citoyens. Je trouve donc que lorsqu'on parle de smart city, de ville intelligente, sensible, on est dans des espaces très importants et qui ne reflètent pas réellement la vie du citoyen que nous sommes tous. Cette vie, elle se passe quand même majoritairement à l'échelle d'un appartement, d'une maison, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle de son lieu de travail. Et sachant que pour le reste, sur le côté géographique, on est plutôt sur des problématiques de mobilité, de déplacement. Donc tant qu'on n'a pas résolu réellement, répondu aux besoins à l'échelle humaine, c'est-à-dire majoritairement à l'échelle du quartier, avec justement aujourd'hui par rapport à hier, cette capacité à connaître les besoins des uns et des autres, leurs usages, et donc par ce collectif, par ce partage de l'information, d'être capable de développer les bons services, on ne pourra pas résoudre ce qu'on appelle aujourd'hui ce phénomène de ville intelligente, qui de toute façon ne sera intelligente que par le citoyen intelligent, c'est-à-dire le citoyen acteur, et pour qu'il soit acteur, il faut qu'on lui donne les moyens de l'être, et déjà, encore une fois, dans son quartier, dans son lieu d'habitation, dans son immeuble, au sein de sa maison. Donc c'est quand même là que ça se passe, au quotidien. Dans un deuxième temps, bien évidemment, dans son entreprise. Et là aussi, c'est intéressant de voir comment les entreprises ont normalement de l'avance sur la Smart City, parce qu'elles sont déjà, depuis de nombreuses années, dans cette transformation numérique, qui lui permet d'être en interaction avec ses collaborateurs, surtout les grandes entreprises, et en interaction bien évidemment avec ses clients, qui sont encore une fois les mêmes individus, le citoyen.
Merci à Francis Pisani, donc, que je rappelle est journaliste et conférencier, et à Louis Tressard, CEO de l'atelier BNP Paribas.
Merci Aurore Géron, on revient dans un instant et on va vous faire découvrir un sujet hyper intéressant, c'est le bureau du futur. Lila Megraoua a rencontré John Underkoffler, qui est le designer de l'univers de Minority Report et d'Iron Man. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Dans quelques instants, on va parler de mobilité avec notre invité. Mais auparavant, on va vous faire découvrir le bureau du futur. Avec vous, Lila Megraoua, vous avez rencontré cette semaine John Underkoffler, qui est le designer de l'univers de Minority Report et d'Iron Man, Lila.
L'atelier numérique sur BFM Business. La web stratégie.
Oui, François, nous allons effectivement découvrir la technologie mezzanine, qui n'est ni moins que la transposition réelle de l'interface Vous savez que Manny, Tom Cruise dans le film Minority Report. Alors figurez-vous que j'ai auprès de moi son designer, John Underkofler, qui est aussi le patron d'Oblong Technologies. Et que dans les locaux de PwC à Neuilly existe la Delta Room qui pourrait être bien l'espace de travail de demain. Alors imaginez un espace très convivial avec plein de fauteuils, jusque là rien de bien original, avec 6 larges écrans. Et en fait, à partir de ces écrans et de votre smartphone, de votre ordinateur, vous allez pouvoir balancer des documents, des vidéos, des objets virtuels, les agrandir, les modifier à l'envie. Bref, un peu vous la jouez à la Tom Cruise en plein travail.
I think that's a very good description indeed.
Oui, c'est en effet une très bonne description. La Delta Room est un environnement qui a été conçu assez brillamment par l'équipe de PwC, avec au cœur notre produit Mezzanine en tant que composant digital. En fait, on essaye de faire en sorte que les gens collaborent entre eux, que les gens arrivent à accoucher de leurs idées grâce à un espace de travail qui soit interactif. Ça va évidemment les aider à prendre plus rapidement et plus efficacement leurs décisions. Ils peuvent ainsi explorer de nouvelles idées et surtout, il y a des équipes entières qui vont pouvoir accoucher de solutions auxquelles elles n'auraient peut-être jamais pensé auparavant.
Est-ce que vous pourriez un peu décrire à nos auditeurs un peu plus précisément, un peu plus concrètement cet espace ? Quelle est quelque part l'idée qui se cache derrière ?
Alors bien, chez Oblong Technologies, on est parti de l'observation suivante, c'est que depuis 30-35 ans, les êtres humains ont conçu des ordinateurs avec une vision assez particulière. C'est qu'un ordinateur, il est conçu pour une personne. Il ne sait rien de vous ou de vos collègues. Vous, vos collègues, ils peuvent pas utiliser mon ordinateur. Et on peut dire à peu près la même chose de nos tablettes ou de nos smartphones. On a donc réalisé, en fait, qu'il manquait une grosse brique dans la manière d'envisager l'informatique. Et cette part, eh bien, c'est la collaboration. Mezzanine est donc quelque part un ordinateur avec plusieurs couches et des pixels placés un petit peu partout. Alors littéralement, en fait, ils peuvent écrire et dessiner ensemble. Bon, si cette manière de travailler elle est assez courante dans le monde physique, à savoir de réaliser plein d'actions ou d'activités en même temps, c'est pas exactement le cas dans le monde digital. Et justement, notre intention, c'est de construire un système digital qui transpose cet esprit collaboratif physique dans l'univers digital.
Cette manière d'envisager les interfaces utilisateurs date de quand vous avez travaillé sur l'univers de Minority Report. Et Minority Report date quand même d'il y a bien 15 ans. Est-ce que quelque part notre appétence, notre addiction presque aux smartphones et aux tablettes, donc notre façon de swapper, de faire glisser des images, nous a quelque part rendu prêts à cette technologie?
Yeah, that's an excellent question. I think there are many factors.
Alors, c'est une excellente question. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte pour expliquer pourquoi tout ça est possible aujourd'hui. Mezzanine, c'est un système qui n'a en vrai que 3 ans et demi. Minority Report date de 2002. À l'époque, ce que j'avais imaginé, c'était un prototype assez conceptuel. Bon, bien sûr, le système montré à l'écran n'existait pas vraiment. Tout était assez chorégraphié, basé sur des effets visuels sophistiqués. Mais quelque part, c'était un moment important pour moi et pour Oblong Technologies, parce que ça nous a vraiment permis de réaliser que, bah oui, les gens étaient vraiment excités par tout ça. Et qu'ils aimaient surtout l'idée, cette idée d'une interface utilisateur plus puissante, qui allait pouvoir leur permettre de faire toutes sortes de nouvelles choses. Pas les mêmes choses plus rapidement, mais vraiment des nouvelles choses. On a donc commencé à construire la technologie centrale. Ça nous a quand même pris beaucoup de temps, même plusieurs années, pour réussir à concevoir la techno de Minority Report. La clé de tout ça, c'est l'interface utilisateur. Quand nous nous sommes lancés, nous avons pensé qu'il fallait que l'expérience utilisateur devienne plus fluide, plus impactante visuellement et plus belle aussi, bien sûr. Et en fait, on s'est dit qu'il fallait que ce soit simplement excitant pour les gens d'utiliser une telle interface. Comme si, par exemple, vous jouiez au saxophone, ou vous skiez, ou vous chantiez, ou vous brouillez. Bref, toutes les choses que nous faisons, nous, en tant qu'êtres humains, et qui engagent à la fois notre tête et notre corps.
Alors, quels pourraient être les autres secteurs que celui de l'entreprise qui pourraient être impactés par cette techno ?
If we can create systems that help to solve problems for companies,
nous pouvons désormais créer des systèmes qui aident des sociétés comme PwC ou des industriels comme Boeing ou General Electric, des sociétés pharmaceutiques et médicales. Et c'est le secteur de la santé qui est en train de comprendre que travailler de manière collaborative est crucial pour eux. Ce qui existe aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Qu'un seul médecin ou chirurgien regarde les données d'un patient, qu'on observe les radios, ça ne va pas. On a besoin que plusieurs cerveaux humains s'y penchent facilement. Il faut qu'ils puissent tous voir, tous en discuter pour dresser un diagnostic et enfin prendre des décisions ensemble et en même temps. Donc ce sont les mêmes, finalement, les mêmes principes que ceux du bureau du futur. Sinon, pour répondre à votre autre question, oui, nous commençons par l'entreprise et oui, ça peut s'appliquer partout. Et pourquoi pas aussi dans les centres commerciaux. Mais la maison aussi pourrait être une piste. Il n'y a pas de raison que nos charmantes télévisions qu'on peut trouver dans tous les foyers ne soient pas transformées par cette technologie et ne continuent pas à ne faire qu'une seule chose à la fois. Demain, on pourra voir des films, des photos, manier bien d'autres choses de façon totalement fluide.
Thank you, John Ander Koffler.
Lila Megrawa, merci. On revient dans un instant. Passion selon Sonnette. Et puis juste après, ça sera notre dossier d'atelier et la French Tech Tour, comme chaque samedi. À tout de suite.